Bienvenue à tous pour cette deuxième séance de notre seconde année du séminaire sur les figures du juge que tout le monde public organise dans le cadre d'un projet de recherche collectif sur le juge et l'action du juge et sa représentation. Alors dans le cadre de ce séminaire, on essaye de façon assez disparate, il faut bien le dire, mais très intéressante à chaque fois, de cerner différentes facettes du juge à travers des figures qui sont parfois issues de représentations disciplinaires, voire d'une tradition ou d'un certain type de savoir qui n'est pas juridique ou qui n'a rien à voir a priori avec le droit, pour essayer de nourrir justement la figure du juge au sens juridique cette fois. Alors, lors de la précédente séance, il y a 3 semaines à peu près, nous avions évoqué l'impact des émotions, mais aussi, rappelez-vous pour ceux qui étaient présents, des stéréotypes dans les décisions rendues par les juges en droit pénal, et en particulier dans la clémence ou la sévérité dont font preuve ces juges en matière de peine. Et donc, on avait à cette occasion discuté les mécanismes de formation d'une décision et le rôle de la colère, du chagrin, ou des excuses par rapport aux attentes des juges. Alors aujourd'hui, on a déplacé un petit peu le débat, peut-être davantage en dehors du droit ou moins directement dans le droit, pour considérer une autre figure, la figure de l'arbitre dans le sport. Figure de l'arbitre qui est souvent convoquée, il faut bien le dire, par les juristes et en particulier par les théoriciens du droit, parfois pour représenter l'action du juge ou un certain type d'action du juge, et en particulier pour opposer les juges de common law qui seraient des arbitres, des juges de la tradition continentale qui seraient eux, soi-disant, plus actifs dans la procédure. On parle aussi d'arbitrage à différents niveaux du droit, peut-être qu'on y reviendra dans la suite, et on entend par arbitre en droit des choses variables selon les matières juridiques et les niveaux d'intervention. Pour ce soir, nous avons le plaisir d'avoir un orateur qui vient nous parler donc du processus décisionnel qui est propre à l'arbitre dans le sport, et peut-être qu'il différenciera d'ailleurs certains sports, je n'en sais rien. Il s'appelle Fabrice Dosville, il est psychologue et professeur à l'Université de Gand, et ses travaux portent pour l'essentiel sur les prises de décision. Alors j'ai vu dans votre présentation des officiels de la pratique sportive, alors je ne sais pas s'il y a lieu de distinguer les arbitres officiels et officieux. Et pour lui répondre, nous avons fait appel à Olivier Corten, qui est un amateur de sport, un connaisseur du sport, et qui a été lui-même à ses heures perdues arbitre en football, hein, si je ne me trompe pas. Il est par ailleurs l'un des promoteurs de notre recherche collective sur le juge, et peut-être qu'il ramènera ou abordera la même problématique, mais en la ramenant plus spécifiquement à la perspective des juristes. Voilà, je vous remercie tous les deux d'être présents ce soir pour ce séminaire et d'avoir répondu à notre invitation. Je vous cède la parole pour la formule qu'on utilise, qu'on réitère à chaque fois, environ maximum 1 heure d'exposé, une réaction d'Olivier Corten et puis un débat avec le public qui pourra vous poser toutes les questions qui le souhaite.
Merci beaucoup. Tout d'abord, merci de m'avoir accueilli, de me recevoir aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'échanger, de parler de l'arbitrage des pratiques sportives, parce que c'est une thématique qui m'intéresse depuis à peu près une quinzaine d'années. Et c'est assez, je vais dire presque rigolo, parce que je travaille aussi sur l'influence des stéréotypes, on va en parler tout à l'heure, et sur l'influence des émotions. Alors les émotions, évidemment, on va sûrement parler là, les arbitres en ont, sur le terrain, on va en parler un petit peu tout à l'heure, et je travaille sur les compétences émotionnelles. Alors je ne sais pas si on va en parler, on aura peut-être le temps d'échanger tout à l'heure. Alors je m'intéresse à l'arbitrage depuis une quinzaine d'années, parce que j'ai une petite expérience d'arbitre dans le domaine du judo et ça a provoqué chez moi un certain nombre d'interrogations. Je fais une grosse erreur et à partir de là, je me suis posé beaucoup de questions. Comment on prend une décision? Comment on juge? Pourquoi, lorsque j'ai fait cette erreur, tout le monde m'a dit que, en gros, j'avais raison? Et du coup, ça a provoqué chez moi un certain intérêt à partir début des années 2000. J'ai cherché dans la littérature un certain nombre de choses et je me suis orienté vers ce type de travaux. C'est toujours un peu difficile de débuter une conférence, alors je vais revenir à mes classiques. Je vais vous parler tout d'abord, pour introduire ce propos, sur une partie historique très succincte pour rappeler un petit peu comment ça a évolué, quelles sont les problématiques actuelles. Vous allez voir qu'il en existe un certain nombre. Ensuite, je vais revenir sur comment on devient arbitre. Comment on devient arbitre, quelles sont les motivations, quels sont les désirs, quelles sont les obligations aussi. Puis je reviendrai, même si je suis effectivement loin d'être un spécialiste de droit, loin de moi, parce que je suis vraiment plutôt dans le domaine de la psychologie, je reviendrai sur ce qui se passe en France et une loi dans le code du sport qui est passée en 2006, et je vous parlerai un petit peu de cette loi, de ses devoirs, de ses obligations qui sont maintenant imposées dans le domaine du sport. Et puis, il y a une partie qui est peut-être la plus importante, c'est la grande question qu'on se pose tous, les chercheurs, mais aussi les arbitres sur le terrain, arbitres, officiels, juges, j'y reviendrai, sur l'arbitrage. C'est quoi ? Est-ce que c'est un art ou est-ce que c'est une science ? En gros, on va se poser la question, est-ce qu'il faut appliquer à la lettre le règlement ou alors il faut le discuter et le revoir dans l'esprit ? Et vous allez voir, dans les deux cas, ça pose problème. Alors, rapidement, je l'ai dit, lorsqu'on aborde les premiers travaux, en tout cas les premiers arbitres, ça nous renvoie aux premiers Jeux Olympiques antiques et les Hellanodis. Littéralement, ce sont les juges des Grecs. Ils étaient chargés à la fois d'organiser donc la cérémonie, remise des couronnes, les branches d'olivier. C'était véritablement un devoir sacré. Les premiers Hellanodis avaient cette possibilité d'être en même temps athlètes. Dès les premiers Jeux antiques, un Hellanodis athlète a gagné à plusieurs reprises des épreuves, notamment en équitation, et juste après les Jeux olympiques suivants, il a été strictement interdit de doubler les missions, en tout cas les statuts, les rôles. Au fur et à mesure, l'Hellanodis qui avait obtenu un poste héréditaire se voyait seulement nommé pour une seule Olympiade. Et puis pendant un certain nombre de temps, jusqu'en 393, les Jeux Olympiques, les Hellanodis, et puis l'empereur romain Théodose va abolir toutes les fêtes païennes. À partir de là, il n'y a plus véritablement de sport. On parle de loisirs, on parle d'un certain nombre de choses. On parle notamment du corps, de son éducation. C'est évoqué notamment par Montaigne, Rousseau et d'autres notamment. Et puis, à partir du 19e siècle, le sport va commencer à apparaître. Alors tout d'abord, notamment en Angleterre, avec les public schools, le football qui va se développer à Cambridge, le rugby, à rugby, ça tombe bien. Et puis, à partir de ce 19e siècle, le sport va se développer à travers un certain nombre de clubs en Angleterre et en Europe. Et là, je vais citer Elias qui définit le sport comme la fonction essentielle, dont la fonction essentielle serait de permettre à l'État-nation de contrôler et même de monopoliser le droit à la violence physique. Évidemment, ça va entraîner un certain nombre de conséquences. Même si on va retrouver un certain nombre de traces d'arbitres, de juges, notamment au Japon avec les sumo, les sumotori qui ont une grande culture du sport, même si au Japon le sumo n'est pas tout à fait considéré comme un sport, mais plutôt comme un art, on va s'apercevoir que le sport se développant, il y a nécessité pour que les clubs puissent s'opposer d'uniformiser les règles. Au-delà de tu vas être mon aide aujourd'hui. Je te remercie. Le voyage fut un peu trop long. On va même développer l'arbitrage. En gros, on va d'abord lister un certain nombre d'interdits. Les clubs vont être informés. Ça, on a droit. Ça, on n'a pas droit. On va, par la suite, essayer de développer le mode de règlement des différents litiges pour contrôler la violence, notamment, pour que le jeu se déroule au mieux. Il y a beaucoup de bagarres dans les premiers matchs. Et à la fin du 19e siècle, à partir de 1891, notamment en football, l'arbitre va rentrer sur le terrain. Partie historique très rapide. Aujourd'hui, en France, il existe à peu près 210 000 arbitres. Alors, à tous les niveaux. On les appelle des arbitres, des juges, des officiels. Tout dépend de la discipline sportive qui nous intéresse. En football, on appelle ça des arbitres. En judo, on appelle ça des juges-arbitres. Dans d'autres pratiques, ce sont des officiels. De manière assez surprenante, lorsque j'ai cherché un petit peu quelques chiffres, je me suis aperçu que là où il y avait le plus d'arbitres ou de juges, c'était en tennis. Il y a peut-être une explication, vous le verrez tout à l'heure. Ensuite vient le football, évidemment. Et puis après, on peut se retrouver avec des disciplines comme le kayak polo. L'université de Caen est championne du monde. Je ne sais pas si vous pratiquez le kayak polo. Non ? Alors, le kayak polo, nous sommes champions du monde universitaire à Caen. Et ils sont 10 arbitres internationaux qui sont à peu près tous en France. Et c'est une pratique qui mérite. Voilà. Donc effectivement, il y a un grand taux d'abandon dans pratiquement toutes les pratiques sportives. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'arbitres qui n'est pas assez important, un turnover extrêmement élevé. On a même des barnotes. En gros, le fait d'abandonner parce qu'on est totalement épuisé, à la fois psychologiquement et physiquement. L'arbitre, ça peut peut-être s'expliquer, notamment par le fait qu'il soit une cible régulière. Alors, à très haut niveau, ce sont les médias, les joueurs, les coachs, les journalistes, et ainsi de suite. À plus bas niveau, ça peut être véritablement des agressions physiques. On trouve malheureusement, sur tous les pays en Europe, sur tous les terrains d'Europe, des agressions physiques, jusqu'à des arbitres qui sont tués sur le terrain, dans l'exercice de leur fonction. Ça pose aussi un autre problème au niveau de la dimension financière. Vous le verrez tout à l'heure pour eux. Quand je me suis interrogé comment devenir arbitre. Une des motivations premières, c'est de gagner un peu d'argent. Mon fils a 15 ans, on lui propose 10 euros pour arbitrer un match. Il est super content. Mais quand il en aura 25, à mon avis, 10 euros pour arbitrer un match, ça ne sera pas suffisant. Et donc, motiver quelqu'un par l'argent, à un moment donné, si ça ne monte pas, ça va être compliqué. Ceci étant, on peut gagner suffisamment d'argent, mais ça reste réduit en nombre. Donc on va se poser la question de l'amateurisme et du professionnalisme. Et puis, je commencerai par ça. En France, il existe une association qu'on appelle l'Association française du corps arbitral multisport. Il doit à peu près y avoir l'équivalent, je pense, en Belgique. Cette association a joué un rôle très important, notamment dans le développement de cette loi 2006 dont je parlais tout à l'heure, et puis a développé cette charte déontologique que je vais te proposer rapidement. Donc comment devenir arbitre ? Les motivations sont multiples, variées, ça dépend de l'âge, ça dépend du sport également. Alors c'est soit on attire les gens par l'argent, soit beaucoup par reconnaissance, responsabilité. Je suis arbitre, j'ai du pouvoir sur le terrain. Ça va avoir un certain nombre de conséquences, notamment dans la manière de juger. C'est tout simplement, comme ça a été pour moi, c'est le fait de rester actif, de participer à l'évolution de mon sport. C'est un peu prétentieux, mais c'est un petit peu mon ambition. Ça peut être une suite logique de carrière. On est athlète, on est coach, et on finit arbitre. Et peut-être parfois pour atteindre le plus haut niveau d'arbitrage, quand on n'a pas pu atteindre le plus haut niveau dans la pratique. Voici cette charte déontologique. Alors, je ne vais pas tout citer, ça serait une simple lecture. Évidemment, je peux vous transmettre à la suite ce diaporama sans aucun problème, même s'il est très lourd, je vous le mettrai en format PDF. Ce qui va nous intéresser dans la formation, c'est les points essentiels. Tous les auteurs, tous les arbitres sont d'accord avec ça. Pour être un bon arbitre, il faut connaître la règle. Alors, même si les joueurs ne la connaissent pas, en tout cas, l'arbitre, il doit la connaître. Ensuite, il faut suivre des formations. Et donc, il s'agit de formation continue. Généralement, on commence l'arbitrage dans son club. Alors, de plus en plus jeune. De plus en plus jeune, pourquoi ? Parce que les fédérations, les comités départementaux, régionaux, ça correspond à vos provinces, je crois, donc oui, poussent de manière la plus précoce possible à l'arbitrage. Tout simplement parce qu'il y a un manque d'arbitres. Donc on demande, et on va même obliger, dans certains sports, de fournir les clubs de fournir des arbitres. On va trouver des arbitres de plus en plus jeunes. D'ailleurs, il y a une fédération qui voulait interdire aux plus jeunes d'arbitrer, mais ça a eu une conséquence. On s'est appuyé sur le code pénal et sur la discrimination fondée sur l'âge, et donc on a même aboli dans certaines fédérations toute limite d'âge. On peut donc arbitrer quasiment à 6 ans. Et de plus en plus de sports, dans leur formation en fait, on fait de la pratique, mais aussi on fait du jugement, on fait de l'arbitrage. Alors, on s'est aperçu avec un de mes étudiants récemment, on a travaillé pour la Fédération Française de Football, que ça avait quelques avantages, heureusement. Ça diminue l'agressivité sur le terrain, ça augmente le respect à travers les arbitres, mais ça a une conséquence. Si l'arbitre n'est pas bon, ça aggrave les choses. Je connais l'arbitrage, en tant que joueur, donc toi, en tant qu'arbitre, tu dois le connaître aussi bien que moi. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, on en parlait tout à l'heure, on en parlera encore peut-être ensuite. Parfois, c'est le papa qui est là, qui a accompagné son gamin, qui va prendre le sifflet, qui va arbitrer. Et si moi j'arbitre un match de football, ça va être très très compliqué, à mon avis, je risque d'avoir des problèmes. En fait, on va passer des associations, au sein des clubs, et puis ça sera aux commissions arbitrales, au niveau départemental, régional, national, international, en passant par des éducateurs, des dirigeants, de former. On a 101 départements en France, et dans ces 101 départements, on a des commissions d'arbitrage, et on va faire monter les plus jeunes le plus précocement possible. Formation théorique et pratique. Donc il faut connaître l'arbitrage, on fait des évaluations, c'est une forme de QCM dans la plupart des pratiques. On va faire du suivi, du tutorat. Évidemment, ça pose problème, il n'y a pas assez d'arbitres pour arbitrer. Alors, évidemment, le nombre d'arbitres pour suivre et pour tutorer des jeunes arbitres, c'est très compliqué. Dans le domaine du football, on a pris les plus anciens. À partir de 45 ans, on n'a plus le droit d'arbitrer en France. Donc, on met tous les plus de 45 ans au tutorat. On a même, et ça c'est exclusivement dans le domaine du football, une section sportive, des sections sportives scolaires. En fait, sport, genre de sport-études, mais alloué à l'arbitrage. Moi, ça me pose un petit problème. Tout simplement parce qu'ils sont testés au départ sur des tests physiques, des tests pratiques, mais aussi des tests de personnalité. Comme s'il y avait une personnalité, un profil de personnalité idéal pour arbitrer. Je ne développerai pas plus, il y a peut-être d'autres traits caractéristiques intéressants à étudier, mais en tout cas, peut-être pas la personnalité. Et puis, il y a beaucoup de formations continues. Alors, il y a un certain nombre de différences significatives entre les disciplines sportives. Par exemple, on va prendre le cas du football. Le football, on ne peut plus, à partir de 14 ou 15 ans, être à la fois arbitre et joueur. Il va y avoir un choix à faire, très précocement. À 15 ans, un garçon ou une fille doit décider s'il s'engage dans l'arbitrage ou dans le jeu. Il n'existe qu'un seul cas de joueur de haut niveau, un joueur de football professionnel, qui est devenu arbitre. Et encore, il arbitre en troisième division. Et il ne pourra pas aller plus haut. Donc, jouer au plus haut niveau, puis devenir arbitre en football, c'est impossible. Enfin, un cas et seulement en troisième division. Totalement différent du football et du handball. Si vous n'avez pas eu un niveau de performance sportive suffisamment élevé, vous ne pourrez pas être un arbitre avec un niveau acceptable. C'est pour ça que moi, j'étais en pôle France, je croyais que j'étais très très bon, un très bon judoka, j'étais persuadé que je ferais un très bon arbitre, et ce ne fut pas le cas. Parlons un petit peu du coup de cette passion qui va parfois se transformer en professionnalisme. Il n'existe que très très peu d'arbitres professionnels en Europe et en France. Dans la plupart des cas, ce sont des gens qui sont salariés. Alors, salariés des fédérations, des comités, des provinces, et ils sont mis à disposition pour arbitrer. En gros, par exemple, un arbitre de football, quel que soit son niveau, il faut qu'il arrive le matin du match, un match le soir, si c'est l'après-midi, il faut qu'il arrive la veille, et il ne peut repartir que le lendemain, après avoir été supervisé et regardé le match dans son intégralité. En gros, il va falloir trouver des entreprises, des structures qui acceptent d'embaucher quelqu'un qui va partir 3 jours par semaine pour faire autre chose. C'est relativement compliqué. Donc la plupart des arbitres, à haut niveau notamment, travaillent au sein des fédérations, des comités régionaux, ils sont formateurs et ainsi de suite. On a quelques universitaires, et ça ne nous ravit pas. Pas très loin de l'université Caen, il y a l'université de Rouen, deux régions qui vont se rapprocher dans quelques mois, qui vont fusionner. J'ai un de mes collègues qui arbitre de football à très haut niveau, niveau deuxième division on va dire. Il est absent la moitié de l'année. En plus, il arbitre UEFA, donc il fait tous les matchs internationaux. Donc, en termes de recherche, c'est le calme plat. En termes d'enseignement, il a un service allégé. On ne le voit jamais. Il y a quand même quelques professionnels, notamment en première ligue en Angleterre. Ils sont tous professionnels. C'est une structure privée qui gère l'arbitrage. Je vous ai mis quelques sommes, histoire de vous mettre un petit peu au courant. 290 000 euros environ. Très difficile d'avoir le salaire d'un arbitre, quelle que soit sa pratique. Plus des primes, plus des déplacements. Alors, tout joue sur la prime. Hein. Là, je ne parle que des championnats nationaux. Il va se rajouter à ça les championnats de Coupe d'Europe, de championnats d'Europe, les matchs amicaux internationaux, et ainsi de suite. En France, on n'a aucun professionnel. Aucun arbitre n'est professionnel. Ils sont tous salariés, publics ou privés. Ils gagnent beaucoup moins d'argent, mais il y a des primes de match. On va rajouter plus des primes d'ancienneté. Plus vous êtes ancien, meilleur, mieux vous êtes payé, plus des déplacements qui sont calibrés. En Italie, on est un petit peu plus, mais là, cette fois-ci, on va rajouter une prime à l'image. D'où peut-être l'importance, et c'est notamment fait dans le basket, à cette idée que les arbitres, quel que soit le niveau, doivent aussi participer au spectacle. Dans le rugby, aucun arbitre, en tout cas en France, 4 seulement arbitres sont professionnels. En fait, ils sont professionnels parce qu'ils sont salariés de l'IRB, l'instance internationale du rugby. Ils sont salariés. Et parce qu'ils sont internationaux, les arbitres exclusivement nationaux ne gagnent que 500 à 600 euros par match, plus les déplacements. On commence à s'éloigner des sommes du football. Pour le basket, on a des arbitres professionnels et des arbitres non professionnels. Professionnels, ils restent salariés de la Fédération française de basket. Alors, au-delà du salaire, hein, certains gagnent entre 600 et 1000 matchs, ça dépend du type de match, et il y a une prime au mérite. Évaluer le mérite et la qualité d'un arbitrage, ça reste extrêmement compliqué. À titre de comparaison, un arbitre en NBA aux États-Unis gagne entre 100 000 et 550 000 euros par saison. Ils font beaucoup plus de matchs et eux sont tous professionnels. On finit par le tennis. C'est là où on trouve le plus d'arbitres, nécessairement parce qu'à très haut niveau, ils sont tous professionnels. Ils ont donc un salaire qui est réglé par la Fédération internationale. Et puis, il y a des primes de match selon le niveau du tournoi, selon le niveau de match, le niveau des rencontres, et ainsi de suite. Un petit peu comme les classements des joueurs. Et d'ailleurs, les arbitres sont classés. Pour les plus jeunes, pour ceux qui évoluent à un niveau un peu moins élevé, on parle de gratification, de défraiement, de remboursement, de salaire, de primes. Ça pose un problème, pourquoi ? Mon fils, quand il va arbitrer, on lui donne 10 euros. On lui fait un chèque, on lui donne 10 liquides. Moi, je peux faire la même chose. Et pendant des années et des années, on appelait ça, en fonction de ce qu'on nous disait, une gratification, un remboursement, une prime. Et personne ne déclarait ces sommes. C'est ce qu'on a appelé une niche fiscale et ça a posé problème. Tout simplement parce que l'arbitre, il est incontournable. Si on veut une pratique sportive, justement, pour régler les conflits, pour éviter toute violence... même s'il y en a encore, eh bien, il est nécessaire. Il a été complètement ignoré pendant des années, à la fois sur le plan social, juridique et de la sécurité. Et à partir de 2006, le législateur français va donc définir le statut de l'arbitre. Enfin, alors, petite explication, c'est la Fédération française de football, aidée par l'AFCAM, l'association française du corps arbitral multisport, qui va tout faire pour développer cette loi. Et l'avocat qui était au sein de l'AFCAM et au sein de la Fédération française de football est évidemment footballeur. C'est pour ça que ça s'appelle la loi sur l'arbitre. Mais clairement, nous, chercheurs, et un certain nombre d'autres dans d'autres pratiques, nous aurions préféré utiliser le terme d'officiel. Scientifiquement, aujourd'hui, lorsqu'on parle des arbitres, on englobe les juges, les assistants, les arbitres sous le terme d'officiel. D'ailleurs, quand ils ont écrit la loi, ça a posé problème, parce qu'à un moment donné, ils écrivaient arbitre, mais dans certaines pratiques, ils disent « moi, je ne suis pas arbitre, je suis juge. Comment je fais ? Est-ce que la loi s'applique à moi ?» Donc après, la loi était un petit peu modifiée, ils ont mis « arbitre, juge, officiel, arbitre assistant, juge assistant », et ainsi de suite. Ça faisait des très très longues phrases, qui étaient assez, pas très agréables à lire, même si je n'ai pas passé non plus énormément de temps à me préoccuper de tout ça. Le statut de l'arbitre. Alors, je ne vais pas... surtout devant vous, commencer à me lancer dans des lectures de cette loi. Publiée le 23 octobre 2006, elle va s'attacher à des points importants, notamment sur la mission. L'arbitre et le juge exercent sa mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règles, ainsi de suite. Ce qui est très important, c'est qu'il est indiqué que la fédération sportive dans laquelle l'arbitre va évoluer va assurer le contrôle de l'exercice de cette mission. Ça veut dire, et ce n'est pour l'instant encore en France, ça en reste là, c'est qu'à chaque fois qu'il faut sanctionner un arbitre, c'est la fédération qui va le sanctionner. C'est le code du sport qui va primer, et pas d'autres lois ou d'autres choses. Autre élément, c'est qu'ils sont chargés d'une mission de service public. Pour la première fois, ils sont assimilés à un magistrat ou un officier de police judiciaire. Alors la loi indique que pour toute menace ou acte d'intimidation, ça doit être puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Pour l'instant, on n'a jamais atteint C'est c'est 2 ans d'emprisonnement et c'est 30 000 euros d'amende. En tout cas, au niveau. Par contre, à des niveaux plus réduits, très locaux, on a eu des cas d'emprisonnement, notamment lorsque l'arbitre est agressé physiquement. Sur les agressions verbales, ça arrive tous les week-ends, sur tous les matchs. Tous. Avant-dernier élément, les arbitres et les juges ne peuvent être regardés dans l'accomplissement de leur mission comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail. Ça, je l'ai mis parce que j'ai pas compris. Et je pense que je vous posais la question tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que ils sont liés à une fédération, mais qu'en même temps, pas tant que ça. Je sais pas si c'est intéressant, je me suis peut-être trompé. Finalement, la loi, elle est surtout sortie pour ses problèmes d'argent. L'État s'est aperçu qu'il y avait énormément d'argent qui n'était pas déclaré. Des arbitres français de football avaient oublié de déclarer 300 000 euros de salaire, mais ils disaient que c'était un remboursement, des primes, des défraiements. Ils ont fait passer la loi et tout le monde a été obligé de payer. Aujourd'hui, mon fils n'est pas obligé de payer des impôts, même moi si. Tout simplement parce qu'il y a une mesure d'exonération de cotisation sociale jusqu'à un plafond. Ce plafond en France, il est fixé à 14,5% du plafond de la sécurité sociale. En gros, si vous ne dépassez pas 5600 euros par an, vous n'êtes pas obligé de payer d'impôts. 5600 euros par an, ça va très vite quand on est à haut niveau. À plus bas niveau, c'est quasiment impossible. L'élément central de l'intervention aujourd'hui, ça sera cette question. L'arbitrage, est-ce que c'est un art ? Ou est-ce que c'est une science? Est-ce qu'il faut appliquer la règle à la lettre? Et donc, je suis agressé, j'applique ce qui est écrit dans la loi. Ou alors, il faut que je reste dans l'esprit. Et donc, ça demande de l'interprétation. Je vais définir les termes. On utilise dans le domaine de la psychologie deux auteurs, Keller et Harvey. On utilise souvent celle-là parce que ça nous parle bien et nous semble assez pertinent. Le jugement d'abord. C'est un ensemble de processus évaluatifs, d'inférences que les individus ont à leur disposition et qui intervient dans le processus de prise de décision. Donc on a la prise de décision qui est un grand processus et il y en a même un certain nombre dedans. Et puis il y a la partie du jugement. Le jugement, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est ce qui se passe dans notre tête. Ça se voit pas. On fait un jugement, on effectue un jugement en fonction d'un certain nombre de choses, de facteurs, on en verra tout à l'heure, mais ça s'arrête là. Le jugement va participer à la prise de décision. Donc, ce processus de jugement, il est séparé des conséquences de la décision elle-même. Je peux juger une situation, mais prendre une décision qui ne correspond pas au même jugement. Et puis, on a la prise de décision. C'est toujours un processus, mais il faut faire un choix. Donc, lorsqu'on se retrouve face à un problème, on doit effectuer un choix. Il y a plusieurs options à prendre, et les conséquences de son choix vont être évidemment cruciales. Il faut donc faire un choix lorsqu'on est confronté à un problème. Schématiquement, c'est simple. On a un processus décisionnel. Est-ce qu'on va voir, nous, dans le public, dans les stades, à la télé, c'est la décision. C'est la seule chose qu'on va observer. C'est l'arbitre qui va siffler, qui va sanctionner ou qui ne va rien faire, qui va laisser jouer. Mais cette décision, elle dépend de deux choses. De la manière dont j'ai jugé la situation, mais également, dans la plupart des sports, de la direction du match. J'interviens avec des arbitres, quel que soit le niveau, hein, dans des fédérations, dans des districts, dans des comités régionaux, et ainsi de suite. Et on a été surpris, les arbitres ne veulent plus être appelés des arbitres. Ils veulent être appelés des directeurs de jeu. Et donc, vous allez voir qu'entre direction et orientation du jeu, la limite est extrêmement étroite et extrêmement difficile à ne pas dépasser. Et puis, quand on va regarder dans le jugement, ce qui se passe dans notre tête, on va les différencier. On a d'abord les jugements, l'évaluation par un jugement subjectif. C'est le nombre de points en patinage artistique. On a tous le fantasme du couple russe au Empire. Il y a la chanson, comment ça s'appelle ? L'Eurovision. Voilà. Il faut regarder un jour, si vous ne connaissez pas l'Eurovision, vous allez voir, c'est géopolitiquement, c'est intéressant. Les jugements subjectifs nous rendent du coup beaucoup plus sensibles à un certain nombre de biais que je développerai tout à l'heure. L'évaluation par mesure objective, évidemment, beaucoup moins sujette à interprétation, tout simplement parce qu'il suffit de compter le nombre de paniers, le nombre de buts, la longueur, il suffit de mesurer, c'est très simple. Et puis, il y a les jugements de performance de joueurs ou d'athlètes. Là, ça demande beaucoup plus d'interprétation. Il va falloir évaluer l'intention du joueur. D'ailleurs, on parlera de l'arbitrage tout à l'heure, mais plutôt sur l'arbitrage disciplinaire. Au-delà encore, on a les jugements évaluatifs d'identification et de cause. Alors, le jugement d'évaluation, c'est quoi? C'est de bon à mauvais. Le conférencier qui est venu le 3 décembre à Bruxelles, il a été bon. Oui, même exceptionnel. J'aurais pu mettre d'exceptionnel à pas mauvais, d'exceptionnel à bon. Jugement d'identification. On va tenter de juger si des conditions d'une règle sont présentes ou non. Le conférencier, il est bon ou pas? Alors, est-ce qu'il a lu ses notes? Est-ce qu'il nous a regardé? Est-ce qu'il a bien répondu? Est-ce qu'il a fait plein de gestes avec sa main, ses mains? Les jugements de cause, c'est juger de la contribution d'un certain nombre de facteurs qui vont déterminer le résultat. Là, on appelle ça des attributions causales. Schématiquement, pour moi, la prise de décision, je vais utiliser deux grandes approches. D'abord, une approche analytique, formelle, normative, déterministe, en fonction des auteurs. La décision, elle est dite, c'est un choix de type optimisateur. En gros, on a beaucoup de temps. On a toutes les informations disponibles. On a des capacités de calcul, capacités cognitives pratiquement infinies. Cette approche, elle est compensatoire, elle est optimale, elle est la plus exhaustive. J'ai toutes les informations, j'ai une approche analytique de la prise de décision. En gros, vous êtes juge en athlétisme. Vous devez juste vérifier si la barre de 100 hauteurs est tombée ou pas. C'est simple, il n'y a qu'une seule information à prendre. En 100 longueur, c'est la plasticine. S'il y a une marque, c'est mordu. Et donc, ce n'est pas validé. Après, je vais mesurer. C'est simple, facile. Beaucoup plus compliqué dans d'autres pratiques. Et on va avoir une approche plutôt naturaliste ou intuitive. Cette fois-ci, on est sous pression temporelle. On a trop d'informations ou trop peu d'informations. Elles sont souvent ambiguës. On a des capacités de calcul parce qu'on est sous pression temporelle, parce qu'on n'a pas toutes les informations, qui est beaucoup plus complexe. Du coup, on va plutôt chercher une décision qui est plutôt satisfaisante, qui n'est pas compensatoire évidemment, et qui est loin d'être exhaustive. Dans l'approche analytique, on va parler presque d'approche rationnelle. On va chercher la bonne décision. C'est oui ou c'est non. Alors, c'est un peu simpliste, mais il y a un certain nombre de théories qui s'appuient là-dessus. Elles sont souvent, d'ailleurs, les décisions, les solutions envisagées à partir d'algorithmes, de statistiques. C'est la théorie des jeux, notamment, vous avez déjà peut-être abordé. Mais en tout cas, le problème, il est simple et c'est relativement facile de trouver la solution. Mais lorsqu'on se retrouve dans une rencontre sportive, quelle que soit la pratique d'ailleurs, et deux joueurs rentrent en contact, comment juger de l'agressivité? Ça, c'est relativement compliqué. Du coup, on va avoir une approche beaucoup plus normative, parce que l'environnement est beaucoup plus complexe. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de joueurs, on n'est pas toujours bien placé, c'est variable, on est sous pression temporelle, on doit donner un jugement parfois dans un temps entre 1 et 5 secondes maximum, des informations pas assez nombreuses. On va donc utiliser ce qu'on appelle des procédures informelles pour prendre des décisions. En gros, on va utiliser des raccourcis mentaux. On en a tous. On prend quelques informations. Par exemple, la jeune fille qui est en face de moi. J'ai utilisé un raccourci mental. Vu son haut à fleurs et sa coiffure, j'ai utilisé un raccourci mental. C'est une fille. On a tous des petits raccourcis. Pardon. Alors c'est peut-être... On le verra tout à l'heure. C'est peut-être un stéréotype, hein, les garçons. Pardon. J'avais pas entendu la voix encore. Pardon. Non pas que les garçons n'ont pas le droit de mettre des petits hauts comme ça avec des roses et d'avoir les cheveux longs, mais voilà, c'est un petit raccourci mental qui permet de gagner du temps. Voilà. Et du coup, ces petits raccourcis mentaux vont nous entraîner vers une approche, un cadre conceptuel qu'on appelle le paradigme de la cognition sociale. Alors, la cognition sociale, c'est quoi? C'est une grille de lecture pour la plupart des psychologues aujourd'hui, des chercheurs dans le domaine de l'arbitrage, pour comprendre comment un arbitre prend une décision lorsqu'il est dans une situation relativement complexe. Alors, la recherche en cognition sociale, c'est... Alors, moi, je suis un psychologue cognitiviste, et je pense que la cognition sociale, c'est plutôt la psychologie cognitive qui va vers le social. Les psychologues sociaux, eux, vont dire « Non, c'est la psychologie sociale qui prend un peu de cognitif. » Ils ont tort. La recherche en cognition sociale, sinon on aurait mis socio-cognitif, hein, va s'intéresser à nos savoirs, à nos connaissances, tout ce qu'on a stocké avec le temps, nos expériences, et puis surtout nos processus cognitifs. Comment on va prendre une décision, quelles sont les différentes étapes. Mais tout ça lorsqu'on se retrouve dans la réalité. La réalité en tant que telle est difficilement perceptible. C'est plus facile de s'intéresser à la perception que les gens ont de la réalité. L'idée, c'est poser la question et tenter de répondre au fait comment les individus vont donner du sens aux autres et à eux-mêmes. On va donc avoir un modèle classique de traitement de l'information. On prend des informations, on va les traiter le plus en profondeur possible, mais sous pression temporelle, et puis on va prendre une décision. La question, c'est comment cette information sociale, elle est perçue, elle est codée, encodée, stockée, transférée en mémoire, rappelée en mémoire, pour prendre une décision. Un petit schéma simple. À chaque fois qu'un arbitre prend une décision, il va d'abord percevoir la situation. Alors, généralement, c'est de la perception visuelle, mais on peut avoir quelques informations auditives. Première étape, la perception. Deuxième étape, la catégorisation. On va classer, catégoriser les informations qu'on a perdues. On va les coder, les encoder. Évidemment, il y a des allers-retours avec ce qui est stocké en mémoire. Je catégorise cet événement comme une faute parce que je connais le règlement. Toujours des allers-retours, ça va dans les deux sens, hein. Et puis, on va intégrer toutes ces informations. Ces informations qui vont permettre le jugement et, in fine, la décision. Prenons le cas d'un tacle en football. On voit une situation et donc on va prêter visuellement attention au tacle. On va la catégoriser selon le règlement et ce que j'ai pu percevoir. Je vais le catégoriser dans la case faute. Je vais évaluer la sévérité de ma décision et je vais mettre un carton jaune. C'est pas plus simple que ça. Évidemment, à chacune de ces étapes, on va utiliser ces fameux petits raccourcis mentaux, même dans la perception visuelle. Ces raccourcis mentaux sont très avantageux, très intéressants, mais peuvent provoquer aussi un certain nombre de biais. Donc on va être influencé, positivement ou négativement, par des facteurs qui vont avoir des conséquences sur le jugement, puis sur notre décision. On va commencer, mais alors rapidement, parce que c'est peut-être pas ça qui nous intéresse, sur la perception visuelle. Ça devient technique, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Parlons du hors-jeu en football. Alors, je vais pas suivre le stéréotype de les filles. Bon, je suis désolé, ça va être compliqué pour vous, le hors-jeu en football. Non, c'est très très simple. Un arbitre assistant. Non, c'est... Si, c'est en fait, non. Bon, les garçons. Un arbitre assistant doit juger si, pour pas qu'il y ait hors-jeu, que le défenseur et l'attaquant doivent... Au moment du départ du ballon, alors c'est compliqué parce que le ballon il peut être ici, hein. Et donc on n'est pas comme des caméléons, on ne peut pas avoir le regard comme ça, donc il va falloir regarder, c'est très compliqué. On va s'attacher juste à cette ligne. Il faut qu'il soit sur la même ligne, en tout cas que l'attaquant ne soit pas au-devant de cette ligne, sinon il est hors-jeu au départ du ballon. Le problème, quand il est bien placé, tout va bien. Mais on s'est aperçu pendant la Coupe d'Europe, pendant les deux dernières Coupes d'Europe, on les a observés, les arbitres assistants, et on s'est aperçu qu'ils faisaient très peu d'erreurs. En fait, ils faisaient juste, en tout cas, des erreurs de décision. Ils faisaient des erreurs de jugement. En fait, on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'ils se trompaient, c'est qu'ils n'étaient pas bien positionnés. Imaginez, j'ai 40 ans, vous avez des mobilettes, vous avez une bonne équipe, moins bonne que l'équipe de France, moi. L'équipe de Belgique au football est pas mal. Non, elle est bien. Mais vous... Alors pourquoi je parlais d'équipe de Belgique ? Vous êtes en rouge et les Français en bleu, voilà. C'est ça. Mais j'ai 40 ans, je suis arbitre assistant. Ça va très très vite. Il y a un attaquant qui va dans un sens, un défenseur qui va dans l'autre. Il faut que je regarde le ballon qui est à 40 mètres. Extrêmement compliqué de bien se positionner. Et s'il est positionné... À chaque fois qu'il fait des erreurs, en fait, on s'est aperçu qu'il était en moyenne en retard de 1m10. 1m10, ça va provoquer un angle de vue un petit peu biaisé. Ici, ils sont toujours normalement positionnés sur la même ligne. Et pourtant, par rapport à son angle de vue, il va voir l'attaquant un petit peu avancé et il est donc hors jeu. Ce qui fait que, on dit, l'arbitre s'est planté, il a fait une erreur. Il ne s'est pas planté dans sa décision, il ne s'est pas planté. C'est dans son jugement qu'il s'est trompé. tout simplement parce qu'il était mal positionné. Ça provoque d'autres problèmes. Si l'attaquant, il est situé ici, là, il est bien devant le défenseur. Et pourtant, je vois sur la même ligne. Donc, bien être positionné est un élément important. Donc, pour être un bon arbitre, un bon officiel, un bon arbitre assistant, il faut être un bon athlète, dans la plupart des cas. Heureusement, notamment en gymnastique, ils ont développé des routines. En gymnastique, c'est extrêmement compliqué. Plutôt que de se mettre bien positionné, par exemple, je vous ai mis des photos de moi, bien positionné face à l'athlète, ils se mettent en contre-plongée, et en plus avec des angles de vue. L'objectif, c'est d'évaluer l'angle droit entre le corps et les bras. Mais je suis sur le côté, je suis contre-bas, et on va s'apercevoir qu'à très haut niveau, ces mêmes juges sont capables de faire des petits calculs mentaux et de s'apercevoir que, ici, ces angles, évidemment, l'angle ici est parfait. Mais lorsque je suis en décalage, eh bien, je vais refaire une espèce de petit calcul, alors qui se fait de manière non consciente, mais qui, avec l'expérience, va permettre au juge de gymnastique de dire qu'ici, il y a bien un angle de 90 degrés. Donc, on apprend à regarder. Ça a été fait aussi dans le domaine du tennis. Une balle de tennis, notre système visuel, il n'est pas capable de voir exactement le point d'impact. Donc, ils se sont entraînés, notamment avec Lighthawk, et ils ont appris, non pas à regarder, mais à mieux anticiper et à refaire des calculs un petit peu avec l'expérience. Voilà pour la perception. Ce qui peut être intéressant, c'est la catégorisation. En gros, la catégorisation, c'est un processus psychologique classique. Ça arrive pour tous les individus. Ça va tendre à organiser notre environnement en termes de catégories. Et on catégorise tout. C'est un système de catégories dans lequel on va classer des stimuli, toutes les informations qu'on a perçues. On va leur donner une identité, une signification, mais plus complexe, plus compliquée que dans une simple classification. L'idée, c'est de voir, notamment parce qu'on n'a pas toujours le temps, voir un monde plus structuré, mieux organisé, plus explicable, plus contrôlable, mais ainsi beaucoup plus simplifié. Et on va utiliser pour ça à la fois des schémas et des heuristiques. Alors, un schéma. Un schéma, c'est la façon dont on organise les informations relatives à une personne, un objet, une situation. Alors, ça peut être le schéma de personne, ça peut être même des nationalités. Il y a, par exemple, j'utilise toujours le même exemple sur les nationalités. Les Belges n'ont sûrement pas la même vision des Français que nous, on a de nous-mêmes, par exemple. Et donc, quand je dis, par exemple, je pose la question à mes étudiants, pour vous, un Suisse, c'est quoi? Un Suisse, c'est lent. Je fais rien sur les Belges. Un Allemand, c'est rigoureux. Un Anglais, ça sait pas faire à manger. C'est plein comme ça. On va classer les gens, tout simplement. Enfin, si, vous, les Belges et les frites. Voilà. Les schémas de personnes sont comme ça. Le schéma du prof de droit, c'est Julie alors. Voilà. Pour moi, voilà. Donc, à chaque fois que je vais voir mes collègues sur Caen qui sont en droit, je vais essayer de trouver la Julie Allard qui est dans mes collègues. Donc, ces schémas, on en a tous. On a le schéma en fonction des métiers, en fonction des rôles, des statuts, des individus, des personnes, et ainsi de suite. On a aussi des heuristiques. Des heuristiques, c'est un tout petit peu plus compliqué. En fait, c'est une stratégie cognitive, une sorte de petite routine qu'on va mettre en place, qui se développe par l'expérience, avec le temps, qui permettent de faire un certain nombre d'inférences acceptable dans la plupart des cas, tout en faisant l'économie d'un traitement exhaustif. En gros, je ne vais pas traiter toutes les informations. Je vais prendre quelques-unes et je vais prendre ma décision. Les cheveux longs, un truc avec des fleurs, c'est une fille. Voilà. Je ne vais pas aller plus en profondeur dans mon analyse, je ne vais pas regarder la taille, la mesure, une analyse 3D, et ainsi de suite. Je prends monsieur est un peu plus âgé que sa voisine. Voilà, c'est un problème de cheveux, enfin de couleur de cheveux, pardon, de cheveux aussi, mais... C'est rapide. Je n'ai pas besoin de faire une analyse très rapide. Enfin, très longue. Ces schémas, ces heuristiques, on en utilise tous les jours. L'être humain en utilise, l'arbitre étant un être humain, il va aussi les utiliser lorsqu'il va se retrouver en situation. Il va donc utiliser ses ressources cognitives, mais elles sont limitées. On l'a vu avec la perception visuelle, ça va trop vite. on a peu de temps pour prendre une décision. On n'est pas comme à la télévision avec des analyses 3D, plusieurs caméras. Je dois prendre la décision dans la situation. Donc, si j'utilise ces routines, ça va me permettre de faire autre chose avec les ressources qui me restent. Ça va me permettre de développer une grille pour lire ce qui va se passer sur le terrain. Mais ça pose un problème. Ça fait de nous de véritables avares cognitifs. On prend une, deux informations et ça nous suffit. Ça pose problème parce qu'on va limiter le nombre d'informations qu'on va traiter. Alors, on a un certain nombre de cas dans la catégorisation. Notamment, les problèmes de réputation dans le football. Des chercheurs anglais ont fait une petite expérience. Ils ont pris tous les arbitres de première ligue anglaise. Donc, le gratin de l'arbitrage anglais en football. Ils ont montré une vidéo avec une information toute simple. L'équipe qui joue en bleu, ils n'avaient aucune connaissance des équipes, c'était un match de 3e division espagnole. L'équipe qui joue en bleu a une très mauvaise réputation, qui était totalement erronée. Et on va donner cette information totalement erronée à un groupe d'arbitres. L'autre groupe, étant groupe contrôle, va regarder le match sans cette information. À la fin, il n'y a pas plus de cartons jaunes, de cartons rouges. Par contre, le nombre d'interventions est beaucoup plus important auprès de l'équipe bleue chez le groupe qui avait cette information erronée de mauvaise réputation. Les arbitres ont expliqué que, comme ils avaient une mauvaise réputation, ils avaient tendance à intervenir beaucoup plus précocement pour prévenir de toute agressivité ou de toute agression. Donc ils sont influencés par cette petite information. La couleur du maillot. J'en parle très rapidement. On s'est aperçu que la couleur du maillot jouait un rôle statistique, en tout cas, sur les résultats. Il faut mieux jouer avec un maillot de couleur rouge ou noir parce qu'il y a un pourcentage de réussite plus important. Quand j'ai soutenu mon HDR pour devenir professeur, j'ai fait un petit travail comme ça, c'était un petit peu sur la couleur aussi, et j'avais un de mes membres du jury qui m'a dit bah, on va bientôt regarder la couleur des sous-vêtements pour évaluer l'influence, et ainsi de suite. Ceci étant, on s'aperçoit quand même que les arbitres sont influencés par la couleur. Le rouge, le noir, c'est l'agression, l'agressivité, et on s'aperçoit que dans les cultures où c'est différent, on ne retrouve pas ces résultats. Les stéréotypes de genre, on n'arbitre pas de la même manière les filles et les garçons. C'est du sexisme. Alors, il y a le sexisme hostile. Les filles n'ont pas à jouer au rugby. Le rugby, c'est un sport de mâle, de garçon. Et on va se retrouver avec des arbitres qui vont protéger, enfin qui vont sanctionner, qui vont intervenir de manière totalement différente les garçons et les filles. Et ça s'est vu sur un match, j'étais à Amsterdam il y a quelques années, Coupe du Monde de rugby féminin, où la Française part, elle va marquer l'essai et elle se prend une cravate, c'est-à-dire un plaquage haut, ses jambes continuaient, son corps est tombé, le ballon tombe à l'arrière, il n'y a pas d'en avant, pilier français prend le ballon, met l'essai. L'arbitre siffle. Normalement, il y a essai. Ce qu'on appelle la loi de l'avantage. L'arbitre siffle et sanctionne la joueuse qui venait de faire ce plaquage haut et demande une pénalité. Le capitaine explique et dit non, la faute était trop grave, surtout avec des filles, donc je n'accorde pas l'essai. Ça, c'est du sexisme hostile. Les filles, voilà, les garçons font du foot, du rugby, les filles font de la gym et de la danse. Il y a aussi le sexisme bienveillant. Il faut les protéger. Et on a vu des arbitres de rugby ou de football, dès le moment où il y a un petit contact, stop, on arrête. Les filles, vous allez vous faire mal. Les filles se retournent. Dans tous les cas, ce sont les filles qui sont toujours sanctionnées ou arbitrées de manière totalement inappropriée. Ce sont les hommes. Mais on a même demandé aux femmes arbitres, vous, femmes arbitres, comment vous fonctionnez? On s'est aperçu qu'elles aussi avaient des stéréotypes de genre. Elles sanctionnent de manière disproportionnée, plutôt les filles. Pourquoi? Et je vous jure que c'est vrai. Les arbitres femmes nous ont expliqué qu'il fallait se méfier des filles. Parce qu'elles sont viles, sournoises et vicieuses. Je reprends leur propos. Dans tous les cas, si on est une athlète féminine, on a quand même beaucoup plus de chances de ne pas être jugée de la même manière. On se bat contre ça. Tout simplement parce que le règlement pour les garçons et pour les filles sont le même, dans la plupart des pratiques. Alors pourquoi ne pas être jugé et arbitré de la même manière? Mais ça arrive tous les week-ends. La taille. Pour faire un certain nombre de sports, il est préférable d'être petit. c'est une routine qu'on a aussi. Quand il y a un gros et un petit qui se bousculent, c'est le grand qui a tort. Eh bien, Van Quackbeck, sur des statistiques, puis avec des modèles en trois dimensions, a testé cette petite heuristique, et s'est aperçu qu'effectivement, dans la plupart des cas, les arbitres sanctionnent plus tôt, alors que c'est très ambigu comme situation, vont sanctionner toujours le plus grand, parce que c'est le plus grand qui fait mal au plus petit. Donc pour faire du sport, soyez plus petit. Moi, ça va. Le langage corporel, maintenant. On s'est aperçu que le langage jouait un rôle très particulier dans le jugement qu'on pouvait se faire. Notamment, lorsqu'on va juger d'une faute. On s'est aperçu, et c'est dans le tennis mais aussi dans le football, souvent on conteste l'arbitrage. Mais il faut mieux le faire une ou deux fois, même quand on a tort, plutôt qu'à multiples reprises. Ça revient un petit peu à cette réputation. Si vous avez une mauvaise réputation, ou si vous passez votre temps à discuter avec l'arbitre, même si à un moment donné vous avez raison, pour l'ensemble de votre œuvre, on ne va plus vous écouter. On va même trouver un certain nombre de catégorisations sur l'ordre de passage en gymnastique. En gymnastique, ça a été au niveau international et ça change un petit peu parce qu'ils se sont appuyés sur ces travaux. En gymnastique, il y a un ordre de passage. On passe, la plupart des cas, du moins bon au meilleur. C'est pas écrit dans les règlements, c'est comme ça. Ça a tendance à changer dans certains pays. Et heureusement, il y a certains niveaux. Et donc, du coup, les juges, évidemment, lorsque le premier ou la première gymnaste passe, c'est la moins performante. À la fin, là ou le plus performant. Chercheur Henning Plessner, allemand, l'université d'Heidelberg, a fait une petite expérience toute simple. Il a fait passer les vidéos, il a échangé. Le meilleur est passé au début et le moins bon à la fin. Et de manière assez surprenante, on ne trouve pas du tout les mêmes scores. Ça n'a pas été jugé de la même manière. On va s'appuyer, parce qu'on a catégorisé, le premier c'est le moins bon, et ils ont été sous-évalués. Alors non pas dans la note, mais dans la difficulté. C'était tout aussi difficile, mais ils ont dit non, c'est pas niveau E, c'est niveau D en fait. Par contre, le moins bon qui est passé à la fin, trouvait c'est le meilleur normalement. Donc je vais modifier un petit peu la manière de juger. Donc même l'ordre de passage, vous le savez bien, si vous passez des oraux, évitez de passer derrière quelqu'un qui a été très très brillant. Passez derrière quelqu'un qui a été totalement nul. Vous verrez, vos enseignants seront beaucoup plus sympas avec vous. Je reviendrai sur la catégorisation tout à l'heure. Évidemment, comme on catégorise, on s'appuie sur des choses qui sont stockées en mémoire. Un officiel peut arbitrer, peut juger à plusieurs reprises sur une saison, sur une carrière, une même équipe, des mêmes athlètes à plusieurs reprises et parfois même de très nombreuses fois. Il y a même pire, en gymnastique, c'est une obligation pour les juges d'évaluer la veille ou quelques minutes ou quelques heures avant les gymnastes. En fait, on va les regarder pendant qu'ils s'échauffent. On va même prendre parfois des notes. Ça pose un problème, puisque je prends des informations. Imaginons, votre prénom ?
Jacques.
Jacques. Jacques nous fait une prestation à l'échauffement extraordinaire. Et puis, au moment où il passe, apparemment, c'est pas crédible. C'est bon. Jacques, au moment de la compétition, va nous faire une prestation catastrophique. Il y a stocké en moi, là, cette information qu'il est vraiment très très bon en gymnastique. Eh bien, c'est ce qui s'est passé lors des Jeux Olympiques, je ne sais plus quelle année. La gymnaste russe fait un échauffement et elle a une très bonne réputation. C'est la meilleure, elle doit gagner. Elle fait Elle fait un échauffement extraordinaire. Elle passe des trucs énormes. Et au moment de la compétition, elle rate complètement sa prestation. À la fin, c'est elle qui obtient les meilleurs points. Et c'est elle qui est championne olympique. Ça a créé un scandale incroyable, mais clairement, les juges ont été influencés par la réputation, parce qu'ils ont vu au préalable. C'est dommage, si Jacques, je le vois travailler tout au long de l'année, il est brillant en cours, il est intelligent et tout, et le jour d'un oral, il craque. Est-ce que je le sanctionne ou est-ce que je me dis, c'est un petit peu dommage de ne pas tenir compte de qui il est. Normalement, en fait, on développe toujours des attentes à l'égard des gens des sportifs, des équipes et ainsi de suite. Finalement, on arrive à l'étape d'intégration. Alors, l'intégration, on va intégrer toutes ces informations. Au-delà des règles écrites, dans chacun des sports, on a un certain nombre de normes, des règles. C'est pas écrit, mais tout le monde le fait. On en parlait tout à l'heure, à quand on a un petit problème, peut-être qu'il y aurait un match de truqué et ainsi de suite en football. En fait, non, ils se sont vus à un match l'année dernière, en fin de saison, tout le monde a besoin d'un nul, ben à la fin, ils n'ont plus joué. Ils sont d'accord, personne n'a rien dit. Enfin, en l'occurrence, si, il y a des preuves, des écoutes téléphoniques, mais... Et ça, on s'en a aperçu à partir de 2001. Imagine un match de football, deux équipes s'opposent. Une faute dans la surface de réparation. Une deuxième faute quelques minutes plus tard dans la même surface de réparation. Et quelques minutes plus tard, une troisième faute toujours aussi ambiguë dans l'autre surface de réparation. Résultat avec des arbitres français, anglais, quel que soit le niveau, on obtient toujours le même résultat. Faute très ambiguë, très compliquée à juger et puis à prendre une décision. Si je siffle la première faute, je ne siffle pas la deuxième. Si je siffle la première, je ne siffle pas la deuxième. Mais dans tous les cas, je siffle la troisième. Dans tous les cas. Et ça, on va le retrouver à travers un certain nombre de choses. Notamment, Brandt, Schmidt et Schmidlock en basket se sont aperçus, ont pris un certain nombre de séquences vidéo en basket. Ils ont fait plusieurs montages. Ils se sont aperçus que pour une même faute, un même événement, une même séquence, ils n'étaient pas jugés, puis la décision n'était pas la même, en fonction de l'ordre. Donc en fonction de l'ordre, on va sanctionner plus ou moins. Il y a une faute, normalement elle devrait être sancionnée par un carton, par un lancer franc, quoi que ce soit. En l'occurrence, non. C'était l'ordre de succession qui va faire qu'on va avoir telle ou telle décision. Les arbitres vont aussi calibrer. C'est parfois ce qu'on fait aussi à l'oral, lorsqu'on fait passer des étudiants. On va mettre un curseur. Est-ce que je vais laisser le jeu viril s'installer, physique ? Je vais mettre un curseur d'un côté, ou alors, le moindre contact, je vais le sanctionner. Je vais mettre ce curseur. Ça ne pose pas de problème. Dès lors, ce curseur reste toujours au même endroit. En gymnastique, en basket, en football, ça a été montré. Et puis, ça va même plus loin. Parce que ce curseur permet de donner un rythme, un tempo, une direction. Mais Kendall Tour, aux États-Unis, s'est même aperçu que les arbitres, directeurs de jeu, avaient une influence bien au-delà de la direction. Il y avait même une orientation du résultat. Kendall Tous s'est aperçu que sur des matchs de basketball universitaires, certains sont télévisés, d'autres non. Lorsque les matchs de basket sont télévisés, ils se sont aperçus que les arbitres sanctionnaient de manière inappropriée et disproportionnée l'équipe qui mène au score. Et en gros, l'équipe qui est menée revient au score. Là, ils appellent ça le fair play, mais évidemment, les arbitres, et c'est pas conscient, vont sanctionner de manière inappropriée, vont sanctionner beaucoup les joueurs qui mènent au score, tout ça pour ça. Et d'avoir un dernier carton extraordinaire. J'ai un étudiant qui travaille sur les matchs de handball internationaux, parce qu'on s'aperçoit d'un truc assez impressionnant. Je ne sais pas si vous regardez souvent le handball, on a une très bonne équipe de France, je regarde ce match, et à la mi-temps, on mène de 23 points. C'est bon, on va aller faire une pause, on fait autre chose. On vient à 3 minutes de la fin et on est à 49-48. Et on va s'apercevoir que les arbitres handball, à haut niveau, vont avoir cette tendance à être un peu plus sévères avec l'équipe qui mène au score, justement pour que le score se resserre. Et c'est très attractif. Aux États-Unis, c'est explicable, hein. Il y a tellement de pages pubs que c'est aussi très intéressant de ce point de vue-là. Allez, conclusion, il me reste une dizaine de minutes. J'ai rencontré lors du congrès national des arbitres de football français l'un de vos collègues. J'ai cherché dans le train son statut, il est juge à Marseille et un fan absolu d'arbitrage. Donc cette conclusion est largement inspirée de ce qu'il a pu, nous raconter. J'ai eu l'occasion d'échanger pas mal avec lui. En fait, l'idée c'est que l'arbitre, le juge, l'officiel des pratiques sportives doivent développer un certain nombre de vertus. Tout simplement parce qu'il peut être biaisé de multiples manières. Je pars du constat que si l'arbitre, il est conscient de ces multiples biais qui peuvent influencer son jugement puis sa décision, s'il en est conscient, on va en limiter l'impact. Si je sais que je suis plus sévère avec les filles, peut-être que je vais être un peu plus attentif à ça. Si je sais que je vais sanctionner plus facilement les grands que les petits, si j'en suis conscient, je vais peut-être en limiter encore l'impact. Donc l'idée, c'est que pour appliquer la loi, comment je vais faire ? Pour ce collègue juge, alors je ne sais plus quel statut, c'est un juge à Marseille. Et il y a du travail à Marseille. Quatre vertus. D'abord la vertu de distance. Et là, il parlait de Montaigne, d'Arendt, de Platon. L'idée pour lui, c'était de tenter de respecter une distance entre la prise de décision par rapport aux joueurs, aux supporters, aux journalistes, aux délégués. Enfin, en gros, pour lui, atteindre l'impartialité, l'indépendance et le désintéressement. Il faut garder de la distance. Mais ce n'est pas simple. Tout à l'heure, je vous disais, il y a beaucoup de turnover. Les arbitres, il n'y en a pas assez. Et il y a beaucoup de stress. J'ai beaucoup de collègues qui, dans les années 90-2000, se sont intéressés au stress des arbitres. Ils abandonnent tous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de la blessure, ils ont peur de faire une erreur, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les arbitres à haut niveau n'ont plus ce problème de stress. Ou à un moindre niveau. Leur stress principal, c'est l'évaluation. Ils sont constamment évalués. Et aujourd'hui, leur stress principal, c'est de perdre leur statut d'arbitre de haut niveau. Donc pas nécessairement professionnel, mais d'arbitre de haut niveau. Ce qui les stresse, c'est de ne pas être bien évalué. Et donc ça prime sur prendre la bonne décision, la décision la plus appropriée. Lui, maintenant, les arbitres à haut niveau, préfèrent arbitrer pour être perçus comme appropriés par leurs superviseurs qui sont dans le public. Des vertus de proximité. Il ne faut pas qu'ils soient trop distants. Il y a 3 ou 4 ans, en France, grève des arbitres. On n'est pas assez respecté, on ne communique pas bien avec nous, donc on se met en grève. Du coup, les joueurs de football français sont mis en grève aussi. Les arbitres ne nous respectent pas. Ça posait un gros problème. L'idée, c'est que il faut communiquer. Dans certaines pratiques, on ne communique pas du tout. En judo, par exemple, dans les sports de combat, on n'échange quasiment pas, à part que des problèmes techniques, on n'échange pas avec l'arbitre. En football, en rugby, ça discute beaucoup. Parfois de manière virulente, violente, agressive. En rugby, on a trouvé des solutions. Tu discutes trop avec moi, tu recules de 10 mètres. Tu continues à discuter, tu recules de 10 mètres. Tu rediscutes, tu prends une pénalité. En football, pour l'instant, ça n'existe pas. J'ai des enregistrements que j'ai là, je n'ai pas du tout l'autorisation de vous faire écouter, des enregistrements des arbitres de football de Ligue 1 en football. On entend des choses qui sont assez surprenantes. Enfin, en fait, pas tant que ça. L'idée, c'est de travailler sur la communication. Enfin, si vous me donnez un peu d'argent, je vous les vends. La communication. La communication, c'est le principal problème de toutes les fédérations. Comment communiquer, comment échanger entre l'athlète, le joueur et l'arbitre. Plutôt que de travailler sur la personnalité, il me semble plus qu'essentiel de travailler sur les compétences émotionnelles. Être capable de reconnaître, d'utiliser ses propres émotions, les émotions des autres, me semble beaucoup plus pertinente que de savoir si on est ouvert d'esprit, si on est consciencieux et ainsi de suite. D'ailleurs, sur les premiers résultats auprès d'arbitres football, handball, basket, judo, karaté, enfin un certain nombre, il n'y a pas de profil caractéristique personnologique qui ressort de l'arbitrage. Par contre, ceux qui sont les plus performants ont des compétences émotionnelles les plus élevées. Des vertus d'intégrité. Évidemment, un arbitre doit être intègre. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande principalement aux arbitres. Être intègre, honnête, droit, cohérent. Ça, c'est une difficulté. Lorsqu'on a des rencontres sportives qui durent 45, 90, 120 minutes, il faut rester cohérent. Une situation doit être sanctionnée, doit être en tout cas jugée de la même manière à la première, à la 90e minute. On va prendre un exemple. Il y a un match de football, il y a quelques mois, où un joueur a fait un tacle par derrière. C'est normalement une sanction d'un carton rouge. Le seul problème, c'est que c'est à l'engagement. En gros, les joueurs ont fait « je te fais la passe », le joueur est arrivé, il a sauté comme un fou, et il a fait un tacle par derrière. L'arbitre n'a mis qu'un carton jaune. Normalement, dans le règlement, c'est un carton rouge. Mais il s'est expliqué. Il s'est dit, mais si je mets un carton rouge maintenant, je vais créer des tensions dans le match. Et le match, il est plié. Donc, je décide de mettre plutôt un carton jaune pour calmer tout le monde. Et en même temps, les joueurs vont... Et en fait, ça s'est terminé en bagarre générale. Il y a eu 4 cartons rouges ce match-là. Par contre, cet arbitre a été évalué de manière très positive par son superviseur. Donc, on lui a demandé de ne surtout pas appliquer la loi à la lettre, mais plutôt de diriger le match, de tenir compte de ce qui se passe. Tenir compte des émotions des joueurs, essayer d'adapter son arbitrage, tout en restant cohérent. Tout ça, très compliqué. Des vertus de mesure aussi. Justement, pour résoudre cette contradiction, ce conflit qui peut exister entre appliquer la règle, la lettre ou l'esprit, la contradiction entre la distance et la proximité, notamment, on va essayer de trouver un équilibre. La mesure, ça va se trouver dans la conjugaison entre l'équité, la sévérité, l'indulgence. On peut être indulgent si une équipe, si les joueurs sont capables de l'utiliser, capables de le concevoir. Mais il ne faut pas être indulgent avec des joueurs qui vont en profiter. D'où l'importance de ces compétences émotionnelles. Être capable de lire dans les joueurs comment ils vont recevoir les décisions que l'arbitre va prendre. Je finirai pour conclure, sur le problème de l'erreur. Pour que ça passe bien quand j'interviens auprès d'arbitres, je dis toujours, vous ne faites jamais d'erreur. Pour moi, un arbitre ne fait jamais d'erreur. Il est biaisé par un certain nombre de facteurs. Pour moi, c'est ça. Donc, ils adorent, hein, je leur dis évidemment, qu'ils ne font aucune erreur. Ils sont biaisés. Par contre, il y a désormais ce qu'on appelle des commissions de visionnage. On va sanctionner l'erreur à posteriori. Un arbitre peut être biaisé. Un mauvais positionnement, un biais par rapport à une réputation ou autre chose. On a des commissions de visionnage qui vont passer aussi par les commissions de discipline où on va regarder les matchs a posteriori. Ça pose un problème là encore. Il y a dedans des joueurs, des anciens joueurs, des présidents et ainsi de suite, et aussi des arbitres. Leur travail, c'est de savoir quand un arbitre a pris une décision, d'évaluer l'intentionnalité du geste du joueur. Ce qui fait qu'on va... Et il y a eu un cas d'école il y a quelques temps, sur la même journée, deux matchs différents, un tacle, deux tacles très agressifs, à peu près équivalents. En tout cas, première vision comme ça, et ça se ressemble beaucoup. D'un côté, il y a un joueur qui a pris 8 matchs de suspension, et l'autre en a pris que 3. D'un côté, on a dit que le premier joueur avait l'intention de blesser, alors que le premier a raté son tacle. Ça devient extrêmement compliqué pour les arbitres d'évaluer l'intention derrière un geste technique ou ainsi de suite. Mais je pense que dans d'autres domaines, évaluer l'intention, ça reste très très compliqué. Dans le domaine du sport, eh bien ça fait loi. T'as fait une faute de manière intentionnelle, tu dois être sanctionné en propension. Alors évidemment, on va de plus en plus travailler sur l'aide à l'arbitrage. Alors on va utiliser des technologies. Football, c'est arrivé pour je ne sais plus quelle... La Coupe du Monde, merci. Alors ce n'était pas de la vidéo, c'était un système technologique pour voir si ça passe ou pas. En tennis, on a le Hawkeye pour les grands tournois de Grand Chelem. En judo ou en escrime, on a la vidéo, on a le problème des jokers. On peut demander un joker pour utiliser la vidéo. Ça discute beaucoup. Et puis en football, on a ce qu'on appelle la jurisprudence Fiorez. En fait, c'est l'arbitrage vidéo a posteriori. Est-ce qu'on peut sanctionner quelqu'un lorsque un arbitre ne l'a pas vu sur le terrain ? Alors, on aurait pu mettre la jurisprudence Zidane, hein, parce que c'est à peu près la même chose. Fabrice Fiorez était un grand spécialiste du football et surtout du lâcher-prise. Il tombait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais sans qu'on touche. Et à un moment donné, la commission de discipline s'est réunie et a regardé un certain nombre de vidéos. Et a décidé de sanctionner ce joueur, Fabrice Fiorez, parce qu'il tombait tout seul. Et faisait prendre des cartons jaunes, des cartons rouges, des sanctions, des pénalties aux autres équipes. Donc il a été sanctionné a posteriori. Ceci étant, depuis Fiorez, il n'y a quasiment eu aucun nouveau cas. Bon, lui était tellement énorme, mais c'est le même cas pour Zidane. Il met un coup de tête à un joueur italien, personne ne l'a vu, Et sauf le quatrième arbitre, qui ne doit pas, qui le voit à travers la télévision, le retour TV, qui n'a pas le droit de regarder. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette Coupe du Monde-là, le quatrième arbitre en football est situé à peu près cette distance de la télévision. Mais il n'a pas le droit de la regarder. Depuis, il n'y a plus de retour télé au bord des terrains, il est reculé. Mais évidemment, personne n'a vu le coup de boule de Zidane sur Materazzi. C'est le quatrième arbitre qui va en informer, pas l'oreillette, l'arbitre assistant, qui va en informer l'autre arbitre. C'est le début de l'arbitrage vidéo. Mais pour l'instant, notre Michel Platini, l'UEFA, décide de ne pas mettre les vidéos. Aujourd'hui, on se pose beaucoup la question. L'arbitre est toujours considéré comme un adversaire, celui qui sanctionne. On ne félicite jamais un arbitre qui a bien arbitré, qui a bien jugé. Par contre, on va lui rappeler dans les médias, parfois juste après le match, parfois on va même l'interpeller, qu'il a plié le match ou qu'il a fait un certain nombre d'erreurs. Il faut savoir que les arbitres sont au courant de leurs erreurs potentielles, en tout cas de la manière dont ils étaient biaisés, très rapidement. Ça pose d'ailleurs problème. Les arbitres, par exemple en football, dans les vestiaires à la mi-temps, sont informés de tout. Le superviseur va les voir, va leur dire « tu t'es planté ». C'est très bien du point de vue émotionnel. Vous arrivez en deuxième mi-temps, vous êtes stressé, vous savez que vous avez fait une erreur. J'ai fait une erreur contre qui n'a pas profité du tout à Jacques. Du coup, Jacques, tout à l'heure, s'il est un peu méchant avec les autres, peut-être que je vais être un petit peu plus indulgent. Et ça, ça va être extrêmement bien perçu par les superviseurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arbitrer en appliquant la lettre, il faut toujours interpréter, il faut toujours tenir compte du contexte. J'ai sanctionné Jacques tout à l'heure, je me suis trompé. Donc tout à l'heure, il est préférable que je sois un peu plus indulgent. Évidemment, il va s'en apercevoir très vite et il va s'amuser avec moi pendant très longtemps. Donc, l'arbitre idéal, c'est le partenaire de jeu, mais c'est celui qui dirige le match. Mais entre direction et orientation, la limite est extrêmement étroite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à Jacques.